Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, pour achever notre étude, notre découverte des merveilles de la pénitence, nous allons, avec saint Thomas d'Aquin et avec l'Église, parler maintenant des indulgences, qui sont aussi une merveille à la fois de justice et de miséricorde. Je vous ferai ce sermon en quatre parties. Tout d'abord, l'émoi de toute la communauté chrétienne lorsque l'un des membres a défailli. Deuxièmement, un rappel et une application du fait que la pénitence pour autrui est agréée de Dieu. Troisièmement, les conditions et les effets de l'indulgence. Et quatrièmement, je vous donnerai quelques exemples d'indulgence notables et dont il faut profiter. Tout d'abord, l'émoi de toute la communauté chrétienne lorsque l'un des membres a défailli. Le péché, surtout lorsqu'il est public, blesse l'ordre de la cité. De la cité chrétienne. Il faut imaginer, voyez, pour comprendre la gravité sociale, pas seulement par rapport à Dieu, mais le désordre mis par le péché dans l'Église, dans la société. Il faut revenir à des sociétés chrétiennes, soit les sociétés chrétiennes au milieu des païens, mais qui étaient très soudées. On voit ça, l'épître de saint Paul aux Corinthiens lorsqu'il parle de l'incestueux de Corinthe. Soit la communauté chrétienne bien établie à l'époque de la chrétienté. Dans les deux cas, le péché est un scandale et la communauté pleure de ce désordre, de cette insulte publique faite à Dieu, de ce déshonneur dont elle se sent un peu responsable, parce que c'est de son sein qu'est sorti le pécheur. Alors, à cause de cela, les péchés publics les plus graves, tels que le meurtre, l'apostasie bien entendu, l'adultère, étaient punis par des pénitences publiques qui devaient publiquement restaurer, réparer l'ordre. Lorsque la réparation est bien faite, elle rend vraiment l'honneur. Regardez saint Pierre. Saint Pierre a commis un horrible péché, un petit peu comme Judas, sauf que Judas était par malice et par prédétermination, tandis que saint Pierre c'est par faiblesse. Saint Pierre a fait pénitence ensuite. Et maintenant, lorsque nous pensons à saint Pierre, le déshonneur qu'il a donné en reniant notre Seigneur est largement compensé par l'honneur qu'il lui a rendu. Et nous disons, ah, ce que saint Pierre a fait, une belle chose, et comment il a vraiment bien pleuré son péché. La même chose pour sainte Marie-Madeleine, qui est connue justement comme une sainte pénitente, et qui est sainte dans sa pénitence. Elle ne l'aurait pas été autant si elle n'avait pas péché. À cause de cela, la communauté chrétienne témoignait toujours sa sollicitude à ceux qui étaient admis à faire pénitence. Je rappelle que ce sont des gens qui ont reçu l'absolution de leurs péchés, n'est-ce pas? L'indulgence et la pénitence pour autrui ne peut pas se faire pour des gens qui n'ont pas demandé pardon. Pour cela, on prie pour qu'ils se convertissent. Il s'agit de ceux qui se sont déjà convertis. Les deux choses causent un désordre, mais justement le désordre de la faute, ça nous en sommes bien conscients, et il faut voir maintenant le désordre à réparer. Et donc la communauté chrétienne témoignait sa sollicitude. Et de leur côté, les pénitents sollicitaient la prière de leurs frères et des prières spéciales qui étaient dites pour eux au cours de la liturgie. Et on a cela dans les textes les plus anciens des Pères de l'Église, dès le début. Saint Ambroise, par exemple, presse le pécheur de confesser publiquement ses péchés afin que l'Église tout entière puisse prier pour lui avec larmes. Saint Augustin prescrit que la pénitence soit accomplie publiquement afin que la communauté puisse prier pour le pécheur. Et il y a avantage pour le pécheur à cette pénitence publique, c'est qu'il va y avoir une solidarité dans la réparation. C'est également ce que demande la Très Sainte Vierge à Fatima, prière et pénitence pour les pauvres pécheurs. Prière et pénitence, pas seulement prière, la prière pour la conversion, mais la pénitence, d'une part pour obtenir qu'ils regrettent leur faute, mais également pour réparer. Et aujourd'hui, il faut réparer. Et il est normal que nous-mêmes soyons pris aujourd'hui, dans la crise actuelle de la société, dans les châtiments que Dieu fait tomber sur les hommes, parce qu'il y a une solidarité. Et si nous acceptons de bon cœur ces châtiments qui ne sont pas en raison de nos propres fautes, encore que, il faut que nous les acceptions pour les péchés publics horribles des nations et même des hommes d'Église aujourd'hui. Évidemment, pour les péchés moins graves, la pénitence était moins publique, et il y a même des péchés pour lesquels la pénitence était faite en privé. Malgré tout, cette pénitence, quoique cachée, privée, est réelle, et il est normal que l'Église ne s'en désintéresse pas. Or, l'Église, c'est nous, donc il est normal que nous ne nous en désintéressions pas non plus. Deuxièmement, la pénitence pour autrui est agréée de Dieu comme elle le serait d'un homme. Nous l'avons vu cela déjà lorsque nous avons étudié la satisfaction. Vous prenez l'exemple d'un roi qui a été gravement offensé. Il a pardonné aux pécheurs. N'empêche qu'il faut réparer. La réparation peut se faire par la prison, peut se faire. Imaginez que quelqu'un se présente avec le pécheur repenti et absous devant le roi. Il se présente pieds nus, la corde au cou, que sais-je. Bien entendu, le roi va accepter cette pénitence qui n'a pas été faite par le coupable, qui est faite par autrui, mais qui restaure l'ordre. Lorsque vous avez les notables d'une ville qui font une pénitence devant le roi parce que la ville s'est rebellée, le roi pardonne à toute la ville. Non seulement il pardonne en ce sens qu'il remet la faute, mais il diminue, voire même il supprime la peine qui était due pour cela. La différence, c'est que lorsque quelqu'un se présente devant le roi, il n'a aucune autorité devant le roi. Tandis que lorsque l'Église se présente devant Dieu, elle a une autorité, évidemment non pas sur Dieu, bien entendu, mais elle exerce l'indulgence de la part de Dieu. C'est le pouvoir de lier et de délier. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, l'Église, avec autorité, présente à Dieu la pénitence de ses membres bien vivants, des saints notamment, et Dieu agrée cette pénitence parce que c'est pour cela qu'il a établi le pouvoir dans l'Église. Une application de ce que je viens de vous dire, historiquement, parce que c'est l'histoire qui nous permet de bien comprendre les indulgences. Lorsque, durant les graves persécutions des premiers siècles de l'Église, certains tombaient publiquement, c'était un scandale évidemment, des martyrs présentaient des billets d'indulgence et demandaient au prêtre ou à l'évêque que l'on fût indulgent pour ces pauvres pécheurs qui allaient être réconciliés mais qui devraient subir la peine, qu'on fût indulgent en raison des peines des martyrs que ceux-ci offraient volontiers pour le coupable. On a là un billet d'indulgence. Encore une fois, ce martyr n'a pas d'autorité dans l'Église. Mais l'Église a autorité pour se saisir de ce billet d'indulgence et donc de la satisfaction faite par le martyr, la présenter à Dieu en absolvant le pécheur d'une partie de sa peine. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés. L'Église a les clés pour ouvrir le royaume des cieux. Elle a une clé dans le pouvoir d'ordre. Le prêtre absout la faute et elle a une clé publique qui est exercée par les chefs de l'Église, qui est utilisée par les chefs de l'Église pour ouvrir la porte du ciel, enfin pour permettre aux pécheurs repentis d'entrer au ciel. Et c'est justement cette clé qu'elle utilise pour accorder les indulgences. Alors cette indulgence des martyrs fut étendue ensuite de manière à faciliter la restauration de l'ordre dans l'Église. Et on a eu beaucoup d'indulgences à partir du Moyen Âge, vers 1300, le premier jubilé indiqué par le pape. On a là un très bel exemple. Il faut favoriser la vie chrétienne et pour favoriser l'union avec la papauté, pour montrer l'importance de Rome qui est la mère et maîtresse de toutes les églises dans la foi et même dans la direction de l'église. Le pape a déclaré qu'il accorderait l'indulgence plénière à ceux qui feraient le pèlerinage à Rome en l'anniversaire de la rédemption, donc les grandes années jubilaires. De même, les papes accordèrent l'indulgence plénière à ceux qui franchiraient la mer pour la croisade et pour récupérer non seulement le tombeau du Christ, bien entendu, mais pour repousser l'invasion musulmane. Il est normal, voyez, que dans ce cas-là, l'Église accorde une indulgence parce qu'elle favorise l'ordre chrétien. C'est pas une simple indulgence qui ferait oublier la peine. C'est un petit peu comme ça qu'on l'apprend maintenant, quelquefois, quelquefois. C'est une indulgence qui va dédoubler la remise en ordre, qui va encourager tout le monde, et pas seulement le pécheur, mais lui aussi, le pécheur repenti, qui va l'encourager à faire beaucoup pour la gloire de Dieu. Les conditions et les effets de l'indulgence, troisième partie. Première condition, c'est d'être pour l'utilité de l'Église, c'est ce que je vous dis. Alors, comme il y avait des grandes aumônes qui étaient faites pour l'utilité de l'Église, par exemple pour construire une église, Luther a prétendu qu'on vendait les indulgences. On vend rien du tout. Monsieur Luther, faites vous-même déjà les grandes aumônes que l'Église demandait, et on en reparlera après, hein? C'est facile de critiquer quand soi-même on ne fait pas pénitence. Peut-être y a-t-il eu des abus, c'est possible. Mais même une belle grosse aumône, lorsqu'elle est vraiment en fonction des capacités qu'elle pèse sur les capacités financières de celui qui fait l'aumône, c'est une véritable pénitence et il est normal que l'Église accorde une indulgence à cette aumône parce que il y a là une réparation publique qu'elle encourage, l'édification d'une église qu'elle encourage, en permettant à celui qui va faire ce bel acte de profiter aussi d'une remise de sa peine. Deuxième condition, c'est évidemment le chef qui juge de l'utilité de l'église et donc elle ne peut être accordée que par un évêque ou par le pape, et même les évêques en raison d'une permission donnée par le pape. Troisième condition, elle est pour ceux qui sont déjà réconciliés et dont la faute est déjà absoute, donc on ne peut pas gagner une indulgence si l'on n'est pas en état de grâce. Troisièmement, pour une indulgence plénière, il faut être détaché de tout péché, même véniel, et si il reste des attaches au péché véniel, c'est-à-dire des péchés véniels qu'on ne regrette pas, l'indulgence à ce moment-là n'est pas plénière, elle est partielle. Les effets de l'indulgence, c'est la remise de la peine selon ce qui est déclaré dans l'indulgence, soit une remise partielle. Alors il faut que je vous dise un mot sur les indulgences comptées en jours, en années et en jours. Il ne s'agit évidemment pas de jours de purgatoire. Oui, parce que ça me paraît évident, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça ira mieux en le disant. Étant donné que l'indulgence est agréée par Dieu, elle dispense de la peine qu'on aurait à faire en purgatoire si on ne l'avait pas faite sur terre. La peine doit être faite soit sur terre, soit purgatoire. Si elle est remise sur la terre, c'est ça le moins pour le purgatoire. Donc il ne s'agit évidemment pas de jours de purgatoire, puisque au purgatoire, les jours ne sont pas comptés et le temps n'est pas compté comme ici-bas. Il s'agit de l'équivalent d'une pénitence publique. Une pénitence de 7 années, par exemple, c'est l'équivalent de 7 années de pénitence publique autrefois. L'indulgence peut être partielle, je vous l'ai dit, ou plénière. À ce moment-là, il y a remise de toute la peine. On comprend qu'il y a une indulgence plénière pour un pèlerinage, surtout à pied, au tombeau des apôtres à Rome, ou bien pour celui qui s'engage dans la croisade, et surtout qu'il risque de ne pas revenir. L'Église applique également les indulgences aux défunts par mode de suffrage. Cette fois-ci, c'est revenez à l'exemple du particulier qui se présente devant le roi. L'Église n'a pas d'autorité sur les âmes des défunts. Et donc, elle ne peut que supplier Dieu. Sur les âmes ici-bas, sur les fidèles ici-bas, l'Église a autorité. Ce qu'elle décide pour eux, Dieu l'agrée. Parce que Dieu a donné à l'Église ce pouvoir de lier et de délier, mais pour ici-bas. Cependant, l'Église est solidaire des pauvres défunts. Et donc, elle ne s'en désintéresse pas. Et elle présente à Dieu les mérites des saints, les mérites de Jésus-Christ également, parce que cela non plus, je ne l'ai pas précisé, cela ira mieux en le rappelant, que l'Église puise dans ce trésor, c'est la définition de l'indulgence, elle puise dans le trésor des mérites des saints, de la Sainte Vierge, qui sont surabondants. Et puis les mérites de Jésus-Christ sur la croix, bien entendu. Et donc l'Église puise dans ce trésor et elle le présente à Dieu pour les âmes des pécheurs. Il est certain que Dieu écoute cette supplication de l'Église. Maintenant, il l'écoute comme il le veut pour l'âme qu'il veut bien faire profiter de cette supplication de l'Église. Quelques exemples d'indulgence, celle pour le chapelet récité en commun, pour le chemin de la croix, pour la première messe d'un prêtre, pour une première communion. Voilà, vous en avez d'autres également. Et les indulgences pour les défunts au moment de la Toussaint et du jour des morts, le 2 novembre, et pendant 8 jours. Profitez bien de ces indulgences. Et je terminerai par ce drame, vous voyez. Les protestants étaient très opposés aux indulgences parce que ils ne voulaient pas parler de justice, parce que la justice oblige à réparer et Luther refusait de réparer. La révolte de Luther, c'est laissez-moi pécher, je me débrouille avec Dieu et m'obligez pas à réparer. Et on trouve hélas la même chose chez les modernes. Alors on prend prétexte de l'amour, la bonté de Dieu, la miséricorde, on ne parle plus de justice, on ne parle plus de réparation. C'est pourquoi la Sainte Vierge est intervenue à Fatima. Prière, pénitence pour les pécheurs, pour rappeler cela. Et on voit, ça m'arrive dans le train de voir des gens qui disent le chapelet. La Sainte Vierge est plus puissante que les modernistes, et il y a des âmes honnêtes, droites, qui écoutent la Sainte Vierge et qui offrent des pénitences pour les pécheurs aujourd'hui. Le pauvre pape Paul VI a tout réformé dans la suite du Concile Vatican II. Alors vous savez, c'est comme le Concile Vatican II, on dit la vérité, mais on la mélange d'erreurs, on garde la doctrine, mais on casse la pratique. Et finalement, le pauvre pape Paul VI a supprimé toutes les pénitences publiques dans l'Église, les 54 jours de jeûne, il n'en a gardé que deux, le maigre du vendredi, quasiment supprimé, alors, théoriquement non, mais pratiquement oui. Et bien d'autres choses, et puis tout l'esprit de pénitence qui a disparu. Le même Paul VI a considérablement diminué les indulgences partielles. Il refuse de les compter en jours et en années, ce qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Elle double les mérites. Vous savez, quand on a peu de mérites, les doubler, ça ne fait pas grand-chose. L'indulgence consiste pas à doubler les mérites qu'on a acquis, elle consiste à se voir attribuer les mérites d'autrui, notamment les mérites des saints. Alors, dans cette crise terrible de la société et de l'Église, eh bien, faisons comme les martyrs, Sentons-nous solidaires des pauvres pécheurs, solidaires du pauvre pape, qui est un des plus grands pécheurs aujourd'hui. Non seulement nous devons prier pour sa conversion, évidemment on ne peut pas présenter d'indulgence pour lui, il est dans le péché jusqu'au cou, le pauvre. Mais sentons-nous solidaires des pauvres pécheurs et de ceux qui reviennent à Dieu et offrons pour eux les pénitences, surtout en ce carême, mais la pénitence du confinement, la pénitence du couvre-feu, comme nos pères ou grands-pères ont offert la pénitence de la guerre, la pénitence des bombardements, toutes ces pénitences qui tombent sur le monde pour réveiller les pécheurs et pour offrir à Dieu une réparation des péchés déjà commis. Faites-le avec la Très Sainte Vierge, qui est vraiment le modèle en cela, par sa présence au pied de la croix, intercédant pour les pécheurs à convertir, intercédant pour les pécheurs déjà convertis, afin que Dieu leur ouvre rapidement le paradis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.